Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch partout. Les ports. Voilà. Chaque semaine, les chroniqueurs passent au crypto tous les shows de la WWE, majeur bien sûr, de temps en temps quelques extras quand on a envie et en ce moment on n'a pas envie. On fait comme des trucs sympas, genre des comptoirs du cash là où on trinque en parlant notamment des champions d'NXT. Écoutez nos reviews. Mais aujourd'hui, on est là pas pour parler d'un show exceptionnel, on est là pour parler d'un show classique, le show numéro 1 de la WWE, le Friday Night SmackDown. Et pour vous commenter tout ça, pour vous narrer un peu ce qui s'est passé dans cet épisode, eh bien, je suis, vous m'avez reconnu, je ne suis pas Tonton. Ben non, je ne suis pas Tonton, je ne suis pas Irem non plus, je ne suis pas Rixai, je ne suis pas Raphaël, je ne suis pas tous ces gens-là qui ont été glandés en allant voir le show à Bercy. Moi, je suis un courageux, un mec, un besogneux, quelqu'un qui va regarder Friday Night SmackDown et qui, du coup, va vous le commenter. Et je ne suis pas seul, car nous sommes deux besogneux à catch-up. J'ai le plaisir de vous annoncer mon compère, Géliel. Bonjour, Géliel.
Salut, papy. Salut à tous. Peuple catch-up. Eh bien, oui, nous sommes là, fidèles au poste, comme toujours, pour résumer et reviewer ce SmackDown du 29 avril.
Et oui, le 29 avril, un SmackDown exceptionnel. Contrairement au show de Bercy, il n'était pas live, le SmackDown. Et oui, c'est le 1184e du nom. Et il était enregistré. Il avait été enregistré la semaine d'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient en tournée européenne, nos amis de la WWE, et ils n'avaient pas envie de s'embêter à faire un show en live pour les Européens. Donc, ils ont décidé de le faire enregistré. Et donc, il était enregistré le 22 avril à Albany, New York, aux USA, dans la MVP Arena, qui n'a aucun rapport avec notre catcheur préféré. Et donc, c'est un SmackDown exceptionnel, puisqu'il va comporter des matchs à stipulation, plusieurs, notamment un match Beat the Clock Challenge High Quit Match, des signatures de contrat. Mais tout d'abord, pour démarrer, on va démarrer par finalement le gros match à stipulation de la soirée, puisqu'il va nous opposer Drew McIntyre à Sami Zayn. On se souvient du contexte un peu de ce match-là. Le Sami, il fuit depuis 3 semaines le combat, donc ils ont fait un petit récap sympa où on voit Sami s'enfuit encore. Ils échappent une fois à 2 matchs classiques, puis un Lumberjack Mac qui a réussi à se barrer quand même. Donc du coup, l'ami Adam Pearce, il avait dit c'est fini, Sami, hop, dans la cage, ça rigole plus, tu vas pas t'enfuir. Et donc du coup, on a un match en cage entre Sami Zayn et Drew McIntyre qui démarre. Bien entendu, Zayn, qu'est-ce qu'il fait à la première occasion? Il se barre, donc il se fait rattraper par Drew McIntyre, et ça sera globalement l'entièreté de l'histoire du match, puisque pendant ce match qui a duré 10 minutes 36, eh ben, Zayn va passer son temps à se barrer, Drew McIntyre va passer son temps à le rattraper. À un moment, on retrouve une action assez spectaculaire avec McIntyre qui tombe du coin du ring, et on pense vraiment que Zayn va réussir à s'enfuir à ce moment-là. Et il est quasiment dehors. Et hop, il se fait rattraper par la peau du slip. Et prend un superplex du haut de la troisième corde du coin par Drew McIntyre, qui derrière l'achève dans un Claymore kick. 1, 2, 3, terminé. Cette petite rivalité se termine par un finish clean. Sami n'a pas pu s'enfuir bien longtemps, n'est-ce pas, Géliel?
Oui, tout à fait. C'est pas faute d'avoir essayé, comme tu l'as dit. Le steel cage, c'était un petit peu la stipulation qui pouvait mettre tout le monde d'accord. Ça a été le cas. Mais je conserve un petit peu de frustration par rapport à ce match-là. J'ai trouvé que c'était pas très rapide. J'ai pas trouvé ça hyper enthousiasmant pour un steel cage match. Sami Zayn a bien fait le taf à chaque fois de vouloir partir. Ah, il se fait rattraper 2 fois par les cheveux alors qu'il était 99,9% dehors. J'ai pas hyper mordu, quoi. Surtout que le reste du temps, quand il a été dedans, ben le Drew McIntyre l'a balancé contre le grillage à gauche, à droite, dessus, derrière, en face, derrière, devant. Il s'est pas passé grand chose finalement en dehors du superplex à la fin où Drew McIntyre enchaîne avec l'énorme Claymore 1-2-3 pour la victoire classique. Gagnant Drew McIntyre, effectivement. Sami Zayn, je l'ai pas trouvé extrêmement à son avantage. Il a pas pu faire trop le heel à part se barrer avec une seule direction au final. Donc ça limitait peut-être un peu sa capacité à être inventif et créatif comme il sait parfois l'être. Du coup voilà, je suis resté un peu sur ma faim. même si du coup, on peut conclure que Drew McIntyre a finalement attrapé Sami Zayn pour lui mettre le tombé. Mais je suis quand même, sur cette rivalité, resté un petit peu sur ma faim. Voilà.
Je rejoins un petit peu sur le rythme et l'ambiance autour un peu de ce match. Alors, je ne sais pas. Alors, un peu, enfin, malheureusement, c'est le problème quand c'est un show enregistré, c'est que du coup, tu te poses toujours 10 000 questions sur est-ce que c'est normal que ça ne réagit pas? Est-ce que c'est des vrais encouragements? Est-ce que c'est des vrais huées? Parce que forcément,
ou pas,
là, tu as tendance à retoucher un peu le son, et puis du coup, bah, tu es plutôt dans un environnement naturel, et moi, ça me perturbe direct, en fait. Je suis un peu perdu. Je voyais quand même que les gens popaient autour, donc je me disais qu'il y avait de la vraie pop parmi tout ça. Mais ça étouffe toujours un peu le son, quoi, de faire ces bidouilles. Et du coup, bah, déjà, tu sais que c'est enregistré, puis en plus, tu as le son un petit peu étouffé, donc t'es pas super chaud. Et je suis d'accord avec toi, le match n'a pas. Ne m'a pas fait lever de mon siège et du coup voilà, je reste un peu mitigé là-dessus. On verra plus tard qu'en fait c'est certainement parce que c'était la petite transition pour McIntyre vers un autre programme et qui se termine comme ça garde une certaine logique là-dessus, mais c'est vrai que du coup pour un début de SmackDown avec un match en cash, tu t'attendais à plus être dans le feu, quoi.
Oui, surtout que on savait que c'était enregistré. Alors moi, je te cache pas, j'avais oublié. Hein. Second one, j'avais oublié, mais c'est pas très grave. Et du coup, ça rematch aussi avec le fait que Sami Zayn, il fallait qu'il aille en Europe faire un show assuré en live. Donc il a peut-être pas voulu non plus en faire des tonnes pour pas se blesser. Ben voilà, tout ça fait que c'est dommage parce que cette énorme stipulation normalement qui doit donner du spectacle, elle est un peu tombée à plat entre ce que tu dis, hein, la suite pour Drew et puis la suite pour Sami Zayn avec le live qui a eu lieu hier soir. Voilà.
Yep, et donc du coup pendant qu'ils repartent tous en Europe, nous on a continué le show avec du coup en fait un petit début de fil rouge pour ce qui sera le main event de la soirée, c'est-à-dire qu'on nous rappelle un peu le Beat the Clock I Quit match qui va avoir ce soir, et donc là-dessus on a deux petites vignettes qui vont nous en parler. C'est d'une part on a Charlotte qui se la pète un peu en disant que voilà, elle humilie à peu près tout ce qui bouge et que Ronda aussi ne fera pas exception. Et ensuite, on a aussi un petit moment, c'est vrai, qui était plutôt pendant le match, en fait, je l'ai pas précisé, mais on pointe la caméra vers le timekeeper de la soirée et l'homme au marteau pour le gong qui sera Drew Gulak, hein, voilà, qui après avoir été intervieweur il y a 2 semaines, après avoir été assistant la semaine dernière, il retente une nouvelle reconversion. Bien entendu, c'est une petite info, une petite piste pour ce qui se passera dans le main event. Mais on y reviendra sur ce Drew Gulak, hein, qui travaille bien avec sa
chrono.
En attendant, on se retrouve un peu dans le ring avec Baron Corbin, Happy Corbin, qui va nous faire un petit Happy Corbin et qui est tout content, en fait. Il est tout content parce que c'est son premier Happy Talk sans son boulet de Madcap Moss. Et donc il est heureux de pouvoir le présenter ainsi. Puis en plus c'est un happy talk exceptionnel parce qu'il va détruire en fait la statue d'André le Géant qu'il avait récupérée la semaine dernière plutôt.
Ouais.
Et donc du coup il arrive dans le ring, hop, il demande à des petits techniciens de ramener la statue. Donc il y a deux techniciens qui portent la statue d'André le Géant vers le ring. Alors il y en a un qui porte la statue normalement, il y en a un autre qui a une casquette et qui en plus regarde vers le sol. Oh oh, qui ça peut bien être? Donc du coup, page de pub, retour de pub, la statue est installée. Happy Corbin demande le sledgehammer pour détruire la statue. Et là, surprise générale, l'homme à la casquette, en fait, c'est Madcap Moss.
Alors,
t'es déguisé en technicien. Oh là là, la grosse surprise. Et donc Madcap Moss balance le sledgehammer directement sur Happy Corbin. Je pense que on le voit pas, mais à mon avis le sledgehammer a dû rebondir parce qu'il est manifestement faux, hein, il est gimmické, donc il a dû rebondir bien loin. Et puis en plus il se jette ensuite sur Corbin qui le balance par-dessus la troisième corde. Voilà, petite vengeance de Madcap Moss qui du coup a récupéré sa statue d'André le Géant suite à sa victoire à la Battle Royale d'avant WrestleMania. Et puis qui du coup l'embrasse avec passion. Voilà, les gens sont heureux. Madcap Moss a eu sa revanche face à Baron Corbin. À noter comme Gilles, avant que je te passe la parole, que ces deux hommes s'affronteront à WrestleMania Backlash Et donc, c'est pour ça que cette rivalité continue.
Oui, alors je reviens sur tout ce que tu as dit. Alors, on a fait le petit récap sur Charlotte Flair, mais j'en rajoute pas. Et puis, bon, alors le Happy Corbin Show, ok, hein, voilà, pas de problème. Grosse surprise, effectivement, là, tout le monde était sur le cul, si je puis dire, hein, parce que Madcap Moss, on n'avait pas vu venir celle-ci. Ouais, bah, petit segment confrontation un peu physique, même si Byron Corbin se s'en va assez vite. Et puis, bah, ça nous tisse le match pour WrestleMania Backlash. Pas grand chose à dire. Il y avait eu des petits passages avec les Los Lotarios, avec Madcap Moss. Là, il revient un petit peu aux affaires avec Byron Corbin, histoire de solder l'affaire. Je pense que c'est une bonne chose, histoire que ça, qu'on puisse passer à autre chose. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense qu'il mérite autre chose que d'être le sidekick de Byron Corbin, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Enfin, on voit bien hein, les six-packs qu'il a dans le ventre, Madcap Moss, mais au moins une ring tout seul, est-ce qu'il peut popper, est-ce qu'il peut créer quelque chose, faire quelque chose. Voilà, moi j'ai hâte de voir ça parce que j'apprécie le bonhomme, je le trouve bien, donc on va voir ce que ça peut donner.
On verra. Bon, t'as raison sur, en fait, on verra ce que ça donne en fait, Madcap Moss, sa première feud finalement en solo. Donc c'est l'occasion pour lui en low card de tenter sa chance. C'est un peu compliqué, encore une fois, avec un public avec un show enregistré et un public gimmické, de savoir exactement si ça marche ou pas avec le public. J'ai l'impression quand même que sa bonne bouille plaît plutôt au public. Après, voir combien de temps ça a duré, moi, il me rappelle vraiment la Mimo Joe Rolley, où on sait très bien que bon, bah, ça faisait un peu plaisir au public, mais ça n'allait jamais très loin. Donc, j'espère quand même que Madcap fera mieux que Mojo.
Tout à fait.
Allez, un petit match, mais pas n'importe quel match, parce que j'ai fait une grosse erreur en vous annonçant le programme du show. J'ai oublié de vous parler d'un match pour le titre intercontinental. Bah oui, on a un match pour une ceinture ce soir. Et oui, Ricochet, voilà, qui va nous présenter un peu ses grandes qualités catchesques dans une opposition de style complet avec Shanky, le géant indien qui accompagne Jinder Mahal. On se souvient que la semaine dernière, il y a eu un défi fait par Ricochet en disant bah je suis prêt à prendre n'importe qui pour l'affronter. Jinder Mahal pensait que ça serait sa chance, bah non, Shanky lui a grillé la politesse et a pris le match. Du coup, on a Shanky versus Ricochet, un match d'une durée relative puisqu'il va durer 3 minutes 34. Ça sera pas le plus court de la soirée, et non, c'est plutôt même dans la moyenne haute, 3 minutes 34.
Et donc, malheureusement.
Un classique du genre avec un géant face à un mec qui rebondit partout. Donc, Shanky tabasse Ricochet jusqu'à qu'il se fasse piéger par un célèbre roll-up. 1, 2, 3, victoire de Ricochet qui conserve sa ceinture. Derrière, Shanky et Jinder sont pas contents. Ils se crient dessus. Bon. Et puis, ils se quittent un peu fâchés l'un contre l'autre. Est-ce que je ne sais même pas quelle question je vais te poser, Julien, à ce sujet-là.
Est-ce que je vais quand même t'y répondre. Écoute, tu ne me poses pas de questions, mais je vais quand même y répondre.
Ah vas-y, réponds-moi. Vas-y, réponds sans question.
J'ai du mal. Ricochet, on lui donne que des gros machins à taper là. Et du coup, je trouve que c'est compliqué pour lui de briller sur ce type d'affrontement. Il y a un vrai déficit de puissance, ça se voit. À certains moments, on se dit, mais c'est non, enfin, Shanky doit le plier 25 fois dans sa poche, le pauvre Ricochet. Et en fait, ça passe sur des petits roll-up, etc. J'arrive pas à être. Pourtant, je l'aime, Ricochet, hein, mais je trouve que le programme qu'ils lui font là en ce moment, ça lui rend pas honneur. En plus, c'est vraiment c'est le fond du fait-tout de la low card du derrière les fagots. Donc, vraiment, j'ai du mal, quoi. J'aimerais qu'il y ait un peu plus. En plus, on nous tease un début de. Je sais pas, de split entre Shanky et puis Jinder Mahal, je sais pas, j'ai vraiment, vraiment du mal. Alors il gagne, hein, il continue à gagner, il peut le dire, et c'est ce qu'il a aussi dit lors des interviews, qu'il continue à gagner, donc tout le monde est très content pour lui, moi le premier, mais je trouve que s'il perd sur un prochain match, ça aurait été un règne finalement très très faible, et je le regretterais pas mal, voilà, pour répondre à ta question.
C'est une question que j'ai pas posée, mais non, mais tu as raison, c'est un peu fadasse comme règne, et c'est pas la faute. On sait jamais la part de la faute de qui c'est, mais c'est vrai que Ricochet, il a pour l'instant pas grand chose à se mettre sous la dent et des matchs pas forcément foufou. Bon, le seul reste, c'était quand même plus vivant que Jinder et Shanky. Néanmoins, c'est vrai que Lumière, pour l'instant, elle est finalement plus posée sur Shanky et Jinder qui se chargent des noix que sur Ricochet. Est-ce que demain, ça va pas finir avec Jinder qui récupère la ceinture et puis Ricochet puis qui a pu ses deux pour pleurer et puis qui n'aura pas fait effectivement un grand passage champion, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que tu n'as pas l'impression qu'ils aient la moindre idée pour Ricochet en tant que champion. Il enchaîne les gars. À chaque fois, c'est plus les autres qui racontent l'histoire que lui.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est assez compliqué. J'aimerais bien qu'il se trouve un truc, quoi, une personnalité, un bazar, une gimmick, une phrase, je sais pas, quelque chose, quoi, qui le distingue des autres. Ricochet, pour l'instant, il est champion fadas. Bon, après, on sait toujours qu'il suffit d'un segment qui fasse décoller le truc, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas Jojo, quoi.
Ouais, et comme tu dis, je sais pas si ça vient de lui qui a du mal à accrocher sur certaines choses, et du coup, il y a du mal à lui créer des histoires, ou alors si c'est vraiment merdique qu'il lui mette entre les pattes. Voilà, j'aimerais bien que ça en reste pas là, ou en tout cas, j'aimerais pas que ça en reste là, voilà, pour la faire plus simple. Bon, on va voir,
et en tout cas, on a vu et McDonald exceptionnel, le premier match dans le main roster de Raquel Rodriguez, bien sûr, Rodriguez, ce n'est pas Gonzalez, c'est une autre personne.
Rodriguez.
Qui affrontait une jobeuse locale, j'imagine, qu'on nous annonçait comme une faisant ses débuts aussi, mais que je ne connaissais pas, qui s'appelle Kat Cardoza, qui du coup est une jeune femme très respectable, qui est freelancer, qui habite du côté de Miami. Donc du coup, voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle a. Elle a pu avoir un match avec la WWE. Et donc, du coup, Raquel a fait ses débuts. Raquel a globalement dominé, même si, on y reviendra, ça n'a pas été aussi dans un sens que ça. Mais elle s'est imposée quand même en 2 minutes 36 avec un bon power slam à la fin. 1, 2, 3, victoire de Raquel. Premier match, première victoire. Mais, est-ce que tu n'es pas étonné finalement qu'elle n'ait pas totalement squatché son adversaire, à quelle elle a quand même mis quelques minutes à s'en sortir?
Clairement. D'une part, en plus, ça a donné un peu de crédit à la Kat Cardoza qui était, ma foi, tout à fait convenable et largement au niveau de certaines low-cardeuses de la division féminine. Je n'irai pas plus loin. Et puis en plus, surtout, elle avait annoncé, en fait, Raquel Rodriguez, qu'elle allait frapper un grand coup et qu'on allait bien voir ce qu'on allait voir. Alors du coup, on a bien vu qu'elle avait bataillé contre une jobeuse, donc effectivement, on a vu le grand coup. On l'attend toujours, quoi. Voilà. Donc, il y aurait peut-être eu moyen de la faire arriver peut-être plus fort, avec un match plus court. Effectivement, un vrai gros squash qui fait peur. Alors que là, ça a bataillé, elle est revenue, elle est repartie. Voilà. Alors c'est plus intéressant d'un point de vue catchesque, d'un point de vue construction de personnage. Par contre, c'était peut-être un peu moins bien.
Ouais. Et en fait, alors, je crois que toi, tu regardes pas trop NXT de mémoire. Mais en fait, à l'époque de Raquel Gonzalez, donc sur NXT, j'avais un peu les mêmes problèmes avec elle. Alors sur NXT, ça me gênait moins parce que je me disais, elle est pas ultra dominante, mais d'un autre côté, c'est parce qu'elle doit bien apprendre le catch, donc du coup, on lui fait prendre des offenses pour qu'elle puisse vendre des coups, apprendre à vendre. Mais c'est pareil, je trouvais qu'elle mettait trop de temps à gagner ses matchs. Et là franchement, à 2 minutes 30, je pense que ça aura dû durer 30 secondes en fait, et refiler 2 minutes à Ricochet. Voilà, il serait un peu plus amusé comme ça. Mais 2 minutes 30, c'est 2 minutes de trop, quoi, parce que tu mets on l'a déjà vu avec Gunther, on l'a déjà vu avec Veer, on l'avait vu à l'époque avec Strowman, avec comment il s'appelle, Finn Meemore là, Ryback. Ces mecs-là, ils mettaient jamais 2 minutes 30 pour finir un match. Hein. C'était 2-3, ils prenaient une offense maximum. Et le reste du temps, c'était 2-3 coups, power slam terminé, quoi. Et Raquel Rodriguez est tellement imposante que moi, c'est plus ça que j'attendrais d'elle, quoi.
Bah oui, je suis entièrement d'accord.
Mais bon, c'est pas ce qu'on a eu en tout cas. J'espère qu'elle va pas se faire avoir à ne pas être assez dominante, parce que vu son physique, ça serait bien dommage. Mais on va voir si d'autres gens sont dominants, puisqu'en fait, on doit avoir la domination suprême des tag teams ensuite. Puisqu'on a la signature pour l'unification des titres par équipe. Et donc, du coup, dans le ring, se rejoignent les Uso et les Arcabro. Qui se joue un petit peu avant de faire la signature, voilà. Et Adam Pearce, bien sûr, qui est là pour le superviser. Et donc du coup, bah voilà, ça tchatche un peu, ça se provoque un petit peu, et à un moment, t'as Riddle qui dit à Randy Orton, hey Randy, t'es trop balèze, comment tu fais toi pour les distinguer? Moi, j'ai jamais su les distinguer, les Ouzo. Et Orton, bye, franchement, moi, ça fait des années que je suis en business, mec. Sans problème, je les distingue. Donc il montre Jey Uso et il fait Jey Uso, bah c'est facile, c'est le bras droit, c'est le right hand man. Il a pas dit main event Jey Uso, mais il y avait l'idée qui était là. C'est Jey Uso quoi. Et puis à gauche là, bah t'as Jimmy. Jimmy, bah, c'est la petite beach, la petite voilà, hein, la petite plage. On va être gentil. Et donc du coup forcément, ça explose complètement. Les deux équipes se foutent sur la tronche, ça part dans tous les sens. Les RK Bro commencent à prendre le dessus. Et là, boum, musique qui démarre. La musique du patron, de Roman Reigns, du chef de la Bloodline. Là, il commence à faire son entrée. Du coup, bah, l'air cabreau, forcément, comme des gentils face, ils se mettent à la corde dans un geeky face avec lui qui fait son entrée. Du coup, bam, les Ouzo en profitent pour les attaquer dans le dos. Grosse domination. Roman rejoint le ring, prend le contrat, le déchire et le fout dans la bouffe de Riddle en disant « il n'y aura pas d'unification ». Alors, ce qui est drôle, parce qu'au début, c'est lui qui l'a demandé. Hein,
c'est lui qui l'a demandé, oui.
L'unification, mais bon, manifestement, il a changé d'avis. Hein, il a le droit. Hein,
ça arrive, ça arrive. D'avis.
Et donc, du coup, grosse domination de la Bloodline. Tout d'un coup, bam, c'est pas possible. Musique écossaise. Qui est-ce qui débarque? Eh ben, c'est le Drew McIntyre. On en parlait au début. Il a fini son programme avec Sami. Il a décidé de faire un programme un poil plus haut du panier. Et donc, va se confronter à la Bloodline. Il évite un coup de Roman Reigns avant de le balancer par-dessus, de l'éjecter du ring. Et donc, du coup, bah, il fait le ménage et les RK Bro et Drew McIntyre éjectent la Bloodline du ring. Ce gros segment de confrontation se terminera un peu plus tard après la pub avec Paul Heyman qui va attraper Adam Pearce en lui disant « Non, mais c'est quoi cette histoire-là, mon gars, là, t'es ouf, là, t'as vu comment ça s'est passé ?» Alors, je t'explique tout de suite. L'unification de match, on annule. C'est moi qui décide. On va faire à la place un joli match 3 contre 3 entre la Bloodline et McIntyre et RLR Cabro. Cherche pas à négocier. De toute façon, si jamais tu t'es pas d'accord, t'es qu'en parle à tes patrons. Mais à mon avis, ils voudront jamais rater un match avec Roman Reigns. Donc, t'as pas le choix. Et effectivement, un peu plus tard dans la soirée, on en le confirmera. Annulation complète de l'unification. Et à la place, un 3v3 qui s'annonce pour Backlash. Eh bien, dis donc, la carte a bien changé, Gélial. Qu'est-ce qui se passe
là? Ça bouge et j'arrive pas à savoir si je suis content ou pas, parce qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de choses à écrire autour de cette unification full Bloodline. Il y avait des trucs vraiment sympas, je pense, à écrire. Là, forcément, ça amène quelque chose où on a aussi quelque chose de sympa avec toute la Bloodline qui combat ensemble. Alors, je crois qu'il y avait eu des matchs déjà, mais en dark match où les trois avaient combattu, mais donc, bah, forcément, on l'avait pas vu. Ça peut être quelque chose de sympa, mais disons qu'on s'arrête un peu en cours de route, quoi. Au pire, ce que j'aurais aimé, en fait, c'est que du coup, ils aillent au bout de la Bloodline versus RK Bro. Éventuellement, RK Bro gagne, ce qui fait que Bloodline n'y arrive pas, et puis dans ce cas-là, à ce moment-là, Roman y arrive, etc., etc., pour aller plus loin, et on finit en 3-3 pour le pay-per-view d'après, enfin le premier live event, pardon. Mais là, je trouve que ça, enfin disons que j'ai pas compris pourquoi on était passé d'une solution à une autre. Voilà, c'est surtout ça c'est ce petit truc-là qui me manque pour apprécier complètement le retournement de situation.
Yes, mais alors on demandera à nos compères qui ont été au live show de Bercy, mais il me semble qu'effectivement le 3v3 c'est un peu le programme qui était prévu pour la tournée européenne. Il me semble en tout cas l'avoir vu à un moment, donc c'est pas impossible qu'il justement ait fait ces matchs là pour répéter qu'il y aura dans le live, dans le truc machin chouette, enfin bref, Backlash quoi. Ouais. Et donc voilà pour ça. En revanche, c'est vrai que c'est bizarre ça qu'on perde l'unification, parce que c'est pas rien, match d'unification quoi. Est-ce qu'ils ont changé d'avis parce que Roman finalement a été guéri plus vite que prévu? Est-ce que c'était le plan depuis le début? J'en sais trop rien. Moi, ça me gêne un peu. Et Pierce, en fait, il a eu la bonne réaction de dire mais attends, et du coup, je me retrouve sans match de championnat quoi, au pay-per-view. Parce que là, il n'y aura pas de match ni pour le titre suprême ni pour les ceintures tag team. Il n'y a plus aucun match de championnat prévu, je crois, parce que
oui, c'est tout le même côté.
L'US, c'est qui le champion US déjà? C'est théorie, bah, bah théorie, j'ai plus, pas.
Oui, c'est ça. C'est plus Baylor.
Il est pas non plus. Si t'as les filles, t'as les ceintures des filles, c'est vrai. Mais par contre, tu les gars, t'as zéro ceinture qui a été défendue. C'est vraiment chelou. Et moi, je pensais vraiment que, alors, j'ai peut-être qu'il se le garde pour la semaine prochaine. Et que Pierce dit, non, mais en fait, t'as raison, mon gars, on va faire le 3v3. Par contre, du coup, winner take all, hop, toutes les ceintures sont en jeu. Et là, t'es bien, là.
Là ah, là, ça peut être
rigoler, pas mal. Là, t'as de l'enjeu. Et tu sais vraiment pas où ça va pencher. Parce que, mine de rien, un winner take all, ça permettrait quand même de faire perdre la ceinture à Roman sans qu'il prenne le tombé, par exemple. Je dis ça, je dis rien.
Oui. Ouais, ouais, parce que du coup, ça ferait un Drew et puis les RK Bro qui conservent. Ça renvoie à quelque chose. Et Drew, voilà, après, Drew, multi-ceinture, enfin, ceinture unifiée, ça fait des gros, ça fait beaucoup pour ses épaules, surtout que ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans la course au titre. Là, il revient un peu sur un coup du sort et puis il prendrait les deux ceintures d'un coup. Ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas?
Ouais, mais après, tu sais, il pourrait très bien dire, bah, je redonne celle de Raw parce que de toute façon, moi, je suis quelqu'un SmackDown et je, enfin, tu vois, il y a
ouais,
par contre l'histoire derrière, quoi, le.
Ouais.
Il fassait un tournoi à côté Raw, ça serait cool. Enfin bref, il y a plein de bonnes idées, mais on s'enflamme. Je pense sincèrement qu'il n'y aura pas ça. Je pense qu'il sera juste ce 3v3 et ce sera terminé. Hein. Mais bon, la WWE là, vous nous avez habitué ces derniers temps à des bonnes idées. C'est le moment d'en avoir une bonne. Ouais. Alors est-ce qu'on s'en prend une bonne idée ensuite? Je ne sais plus c'est quoi la suite. Quelle est la suite, mon bon Géliel? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un match féminin. Est-ce que tu te souviens qu'on a un match féminin?
Bien sûr, avec The Glow.
Et oui, The Glow. The Glow, The Glow, The Glow, The Glow, entre Naomi et Shayna Baszler. J'allais dire un autre long match, mais non, il est encore plus court que celui de Raquel. Puisqu'en fait, Naomi va affronter Shayna Baszler, un match de 2 minutes 27. Un match est prélude, en fait, à une future opposition qui aura lieu dans 2 semaines. Donc, c'est pas tout de suite entre les deux équipes pour le titre tag team féminin. Et donc du coup, Naomi gagne sur roll-up. Hein, voilà, enfin franchement, match bidon. Derrière, Naomi attaque. Natalia plutôt attaque Naomi. Sacha essaie de l'aider, mais est attaqué par Shayna. Et donc du coup, au final, Shayna Baszler, je vais y arriver, perd le match. Mais par contre, Naomi, Natalia et Shayna ressortent dominantes puisqu'elles appliquent toutes les deux des soumissions sur leurs adversaires. On est en train de construire tout. Alors là, on est aussi un petit peu dans finalement ce qui est devenu la low card féminine, un peu la ceinture tag team, avec une rivalité qui commence avec un 1v1 et on aura l'autre match, je l'annonce la semaine prochaine, entre Sacha et Natalia. Qu'en as-tu pensé, Géliel?
Ouais, c'était un peu convenu, mais c'est dommage parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Shayna Baszler qui ressortait un petit peu. Elle perd sur un roll-up, alors que elle avait été moins, comment dire, ridicule, c'est peut-être un peu fort, mais disons que ça fait un moment qu'on l'avait pas vu à la fête, en tout cas. Et là, ça, je trouvais que ça allait un petit peu mieux sur certaines prises, sur certaines, sur certaines actions. Elle perd quand même. Bon, écoute, on va attendre la semaine prochaine la revanche, et puis derrière, dans 15 jours, le tag team. Voilà.
Ouais, j'espère. Ça serait bien que ces équipes-là arrivent par leur talent à gratter du temps d'antenne, mais j'ai pas l'impression que ce soit la route. Ça reste sur compliqué, SmackDown. Il y a tellement de temps donné aux histoires principales que du coup, le reste a souvent peau de chagrin pour s'amuser. Et c'est un peu le cas pour nos équipes tag team féminines. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce SmackDown? On va aller un peu dans un match, qui entourait une petite blague, en fait, puisqu'on va parler de tes chouchous, l'équipe de débiles, l'équipe de Sheamus et ses amis, qui est en train d'affronter le New Day. Alors, je dis Sheamus et ses amis, mais c'est Sheamus et son ami, puisqu'il lui reste plus que Ridge Holland, puisqu'il y a un hashtag où est passé Butch, puisque Butch a disparu. Voilà, après s'être enfui suite à la défaite de la fin dernière, il est introuvable. Ils ont fait tout des montages super rigolos avec Butch à la plage, Butch dans une fête. C'était tellement bien fait que j'y ai vraiment cru. Et malgré tout, on va avoir un match qui sera le deuxième plus gros match de la soirée, puisqu'il va durer 8 minutes 47 entre Xavier Woods et Ridge Holland. Un match plutôt équilibré où Xavier Woods continue un peu sa streak de victoire, puisqu'il est battu deux fois Butch, et puis là, il bat encore une fois Ridge Holland, encore une fois avec un espèce de petit paquet. Et donc la victoire pour Xavier Woods, là-dessus, j'enchaîne tout de suite, Gilles, avant de te rendre la parole.
Yes.
Et ben, Chemeux, c'est pas content et il dit, non, mais c'est quoi ce, j'en ai marre, moi, d'être avec des losers, là. Et donc, du coup, il défie Kofi Kingston, le public, hop, sont à fond et vachement d'accord. Ouais, vas-y, Kofi, vas-y, va te battre. Et là, bah, ça sera pas la même rigolade, pas la même limonade que pour son copain Xavier. Que Kofi va résister 2 minutes 57 avant de te prendre un enchaînement coup de genou brook kick de toute beauté, parce que autant le match n'est pas grand chose à retenir, autant le finish est magnifique. Et donc, se fait décapiter comme il faut. Ça m'a fait chaud à mon petit cœur de voir un Sheamus comme qui n'est pas totalement perdu dans la lousitude. Et donc, victoire de Sheamus, une victoire chacun. Les comptes sont équilibrés. À noter cependant qu'on a fait tout à l'aïe sur Où est Butch, voilà, avec des montages à deux balles, et qu'on n'a pas vu Butch de la soirée. N'est-ce pas, Géliel?
Ouais, et puis bah écoute, ça a été le moment catchesque que j'ai trouvé assez sympa de la soirée. Je montais un petit peu en puissance avec Ridge Holland versus Xavier Woods, qui était quand même vraiment sympa. Il y a vraiment de la puissance côté Ridge Holland, hein, ça botche un petit peu, enfin c'est limite de temps en temps, mais on sent qu'il y a de la puissance, il y a quand même des choses à faire. Bon, un petit paquet à la fin pour la victoire de Xavier Woods. J'ai bien aimé la réaction du coup qui s'en est suivie, hein, évidemment, avec Sheamus qui est très énervé, hop, qui tombe le petit sceptre, qui tombe le manteau, et puis qui va se friter avec Kofi Kingston. Et là, gros gros match, hein, j'étais pareil, hein, comme toi, hein, enchanté de voir Sheamus quand même très très en forme. Le deuxième match était aussi très sympa, finalement il s'est quand même fait quand même bien ramasser Kofi Kingston, et puis après le brook kick, le knee strike en l'air, parce qu'il était en l'air le pauvre Kofi Kingston, enchaîné avec un brook kick, c'était magnifique. Et donc victoire de Sheamus, victoire de Xavier Woods, du coup un partout balle au centre comme tu l'as dit, et on va voir ce que ça va donner, surtout que ça s'est terminé un petit peu en brawl. Il y a eu Xavier Woods qui est passé à travers la table par Ridge Holland, etc., etc. Enfin, c'était assez sympa, quoi. Et puis surtout, ils ont une belle hit chez Moose et Ridge Holland, là. Tout le monde était très, très, très content de les huer avec joie. Donc, j'ai trouvé le moment très sympa. Un moment vraiment bien.
Yes, et et c'est vrai que j'ai oublié de préciser que ça s'était terminé par un massacre un peu du New Day, avec notamment un passage à travers une table. Qui aura une importance, oui. Puisqu'en fait, ils ont annoncé qu'on aura un match la semaine prochaine, New Day versus Sheamus et Ridge Holland, table match. Donc, petit détail, tu fais bien de le rappeler. Et donc, on continue après ce match-là. Par contre, c'est mon préféré, je sais, Gilles, parce qu'on en a parlé avant ce show. Et Gilles m'a dit, surtout, c'est très important que tu en parles, parce que là, c'est le segment qui, à chaque fois, me met les larmes aux yeux. C'est le segment Lacey Evans chiale. Et donc, Lacey Evans a chialé, comme d'habitude, en expliquant qu'elle a eu son diplôme, mais qu'elle n'est pas son papa pour la féliciter, et qu'elle est alarmée, qu'elle était fière, mais qu'elle n'est pas son papa pour la féliciter. Et puis, c'était pas facile parce qu'elle n'est pas son papa pour la féliciter. Et voilà, donc elle a chialé. Et donc, on n'en a rien à faire.
T'avais dit qu'il n'y avait pas son père pour son diplôme ou pas? J'ai pas. Parce que je crois qu'elle l'a dit.
Pas là, le papa.
Ouais, voilà, c'est
fout,
ça.
Lacey. Va crever. On en a marre, Lacey. Mais casse-toi. Voilà. La WWE licencie plein de gens en ce moment. Mais qui licencie Lacey Evans? On n'en veut plus.
Franchement, c'est la quatrième fois d'affilée, là. Où il se passe... où elle dit rien d'autre, non?
Elle dit rien d'autre, non. Je sais pas. À chaque fois, elle raconte une semaine de sa vie et. Où il se passe rien, hormis qu'il n'y a personne qui vient la voir, quoi.
Non, je sais pas. Elle est loin du ring, elle est loin du catch, elle est loin de tout, là. Je ne sais pas comment elle va y revenir, là, mais en tout cas.
J'arrive pas à comprendre. Je ne me rends pas compte à quel point le public sera suffisamment, lobotomisé par le USA pour ne pas lui cracher dessus quand elle va revenir, quoi. Parce que c'est affreux, ces segments, quoi. C'est vraiment terrible, hein. Je comprends pas. Chaque semaine, elle arrive, elle nous raconte ses malheurs, elle pleure, et puis fin de l'histoire. Et puis t'entends dans les petites photos d'elle quand les jeunes qui réapparaissent.
Je comprends pas, je suis d'accord. C'est un truc, effectivement, pour être américain, je pense, pour comprendre ce genre de truc.
C'est ça. Et si on n'est pas, et si jamais les Américains pensent comme nous, eh ben, Lacey, il y a une charrette avec ton nom bien écrit en grand dedans. Voilà. Allez, salut, au revoir. Bon, on va parler de filles qui se battent. Hein. Ça sera quand même plus sympa parce qu'il y a quand même des filles qui, pour le coup, font vraiment du catch et ne vont pas que pleurer sur leur papa qui est pas là. On s'en fout, merde. puisqu'on a bah, le main event du show qui est le Beat the Clock I Quit Challenge, où en fait Charlotte et Ronda vont se mesurer pour faire celle qui fait le plus vite dire I Quit à son adversaire. Tiens d'ailleurs, il y a pas l'enjeu, c'est juste ça en fait. Il y a pas, elle gagne rien. C'est le celle qui ira
non,
plus vite.
Non, non, non. Non, non, non.
Ouais,
non.
Elle n'a même pas un ours en peluche ou des.
J'ai peut-être raté une stipulation ou un truc comme ça, mais il m'avait pas semblé. En fait, parce que c'était, vu qu'il va y avoir un quit match à WrestleMania Backlash, il y avait un beat the clock qui était posé là, mais il ne m'avait pas semblé qu'il y avait un truc à gagner dans la bataille, quoi.
Mais je ne pense pas non plus. Alors, c'est peut-être juste une manière de nous expliquer à quoi ça ressemble à un quit match. On aura bien compris.
Oui, au cas où.
Puisque du coup, Ronda ouvre les hostilités avec une opposition contre Shotzi Blackheart, ou Shotzi tout court maintenant, je ne sais plus. Bref, elle l'affronte, Shotzi se défend un peu comme elle peut, elle botche un petit peu comme d'habitude, puis au final, elle se fait démonter avec une ankle lock, elle fait « écoute, écoute, écoute » dès que le micro passe à 2 cm de ses lèvres, et donc elle abandonne au bout de 1 minute 41. Là-dessus, Charlotte qui était là en fait pour assister au match et qui a passé son temps à se moquer un peu, elle entre dans le ring, elle dit, c'est moi la patronne, vous allez voir ce que vous allez voir. Amenez-moi la petite Aliyah là, que je lui règle son compte. Donc Aliyah rentre avec une musique qu'on ne connaissait pas, puisque bah mine de rien, c'est après un fond qu'on l'entend. Elle fait sa petite ouais. Sourire, nana, elle fait son entrée, elle est contente. Et donc elle affronte Charlotte. Donc comme d'hab dans ces cas-là, dans un beat the clock, eh ben le chrono est inversé cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on part de la minute 41 qu'a établi Ronda et on retourne vers zéro et Charlotte doit gagner, enfin, faire dire I quit avant le zéro. Et donc Charlotte elle y va tranquillement au début, elle va en marchant, elle fait des petites tounes, tout ça, elle y va pas franco. Au bout de 40 secondes, bah, elle a toujours pas gagné, donc elle commence à enquiller un petit peu et faire des soumissions. Et puis, bah, le temps passe, elle n'a plus qu'à quelques secondes de la fin, je crois une quinzaine de secondes de la fin, et elle tente un figure four, mais elle galère un peu à le poser, et puis bah, finalement, elle met tellement de temps à faire son figure eight bah, que le gong sonne et que bah, l'arbitre n'a même pas le temps d'approcher le micro de l'élève d'Aliyah. Et donc, bah, grosse marade de Ronda qui dit bah, « Ouais, j'ai été plus rapide que toi, t'as la honte !» Ce match-là, Charlotte versus Aliyah se finit par un draw, donc félicitations Aliyah, tu n'as pas perdu contre Charlotte Flair. Et donc du coup, bah, Charlotte est vénère en fin de match. Qu'est-ce qu'elle fait? On en avait parlé au début du show, elle va se venger donc sur le chronomètre, et le chronomètre c'est qui? C'est Drew Gulak. Et donc du coup, elle va l'engueuler en disant « T'as pas tapé la cloche assez vite ?» Alors que bon, l'autre n'avait pas dit « I quit ». Je ne vois pas pourquoi elle a tapé sur la cloche, mais bon, c'est Charlotte, on ne va pas chercher à comprendre. Elle tabasse Drew Gulak, un coup de cloche dans la tronche, et puis je crois qu'elle le finit en lui donnant une soumission dans le ring, certainement. Je ne suis plus sûr en fait, de comment ça se termine. En gros, le show va se terminer comme ça, hein, avec Charlotte qui tabasse Drew Gulak un peu gratuitement, j'ai envie de dire.
Oui. Elle lui fracasse la cloche sur le dos.
Ouais, elle fait que ça, ouais, je pensais qu'elle faisait une soumission derrière, mais je n'étais plus sûr. Non, elle le frappe qu'avec le balance dans le ring, puis après elle le frappe avec la cloche. Voilà, c'est juste comme ça que ça se termine. Ding dong hello. C'est terminé pour ce match, c'est terminé pour ce show. Est-ce que c'est terminé pour cette review? Pas encore, puisque d'abord, JLL va nous donner son avis sur ce segment final.
J'ai trouvé ça un peu poussif, hein. Alors sans doute lié aux oppositions. Shotzi, je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait là. Peut-être que l'opposition avec Ronda Rousey c'était pas simple, surtout qu'il y avait une stipulation vraiment particulière sur le I Quit. Donc pas convaincu ni par l'une ni par l'autre. Charlotte Flair, Aliyah, faudrait qu'elle fasse commentatrice comme avec Drew Gulak, mais en in-ring, elle rigolote, elle sourit, elle est contente. On sent qu'elle vit sa vie, elle est très sa plus belle vie, là, elle est très contente, mais alors même si elle a fait 2-3 trucs où elle a sauté un peu à gauche à droite, je trouve qu'elle est quand même très très légère. Du coup, c'est complètement incompréhensible que la grande Charlotte ne mette plus d'une minute 40 pour lui faire une quit. Voilà, la fin avec Drew Gulak, c'était un peu prévisible, mais bon, le pauvre, il ramasse depuis le début. Ça fait 3 semaines maintenant qu'il se prend Charlotte des big boots et autres dans la face. Ça finissait de manière assez classique le truc. Ouais, je l'ai trouvé un peu poussif ce main event. J'aurais préféré autre chose. Surtout que ça va être un peu d'intérêt pour la suite, et notamment WrestleMania Backlash et la rivalité entre les deux. Voilà.
Yes, bah ouais, et puis en plus, Du coup, on se retrouve avec des acquits qui font une minute 40 chacun. T'as pas du grand catch. Et les oppositions sont tellement déséquilibrées que ça s'est terminé rapido.
Ouais.
Ouais, bah, c'est vrai que c'était pas foufou, quoi. T'as pas vraiment, t'es pas plus emballé. Après, au moins, ça évite à Ronda de parler. Donc, je la trouve comme moins en difficulté, clairement, sur ces derniers temps qu'elle a pu l'être en début de rivalité. Voilà. Hein,
c'est-à-dire Ronda, qu'au niveau micro, effectivement, au niveau micro, elle est tout de suite moins en difficulté dès qu'elle dit rien.
Non, mais voilà, moi, je trouve qu'elle est plus à l'aise, en fait, dans ce domaine-là. Bon, voilà, je ne sais que dire de plus. On finit le SmackDown dessus, et puis, bah, voilà, que dire de plus, bah, on va simplement attaquer le mot de la fin avec le top, le flop et la note concernant ce SmackDown du 29 avril 2022 enregistré. Géliel, à toi l'honneur.
Alors, le top, je vais te le laisser pour Lacey Evans. Moi, je vais plutôt lui mettre un flop à Lacey Evans. Je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. C'est extrêmement fatigant. Ça devient gênant. Surtout que le temps que je devienne américain, il y a un certain temps, je pense que la promo sera finie. J'aurais pas eu le temps de comprendre ni de ressentir le souffle épique. Donc, non, faut arrêter. Faut arrêter en ce qui me concerne. Le top, je vais le donner au match des Anglais européens contre le New Day. J'ai trouvé assez sympa. Et surtout avec la deuxième partie avec Sheamus qui relève bien le niveau. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. La note, par contre, ça va être très faible parce qu'une ring, j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant, vraiment, hein, que ce soit le semi-squash qui aurait dû être un squash de Raquel Rodriguez, Ricochet qui gagne sans trop qu'on comprenne pourquoi, le glow qui est pas terrible, et puis la fin avec le main event que j'ai trouvé extrêmement poussif. Je pense qu'au bout du compte, au total, on doit avoir pas plus de 15 minutes de catch ou quelque chose comme ça, non? Ah, peut-être avec un peu plus avec le match des
Anglais.
Non,
t'as déjà, rien qu'avec la cage et le Woods, c'était déjà 18 minutes en fait.
Donc, ah oui, d'accord.
T'as une grosse vingtaine de minutes, gros 20-25.
Ouais, pour moi, c'est pas assez en tout cas. Du coup, ça va pas. Eh ben, du coup, je vais pas lui mettre la moyenne à ce show et je vais lui mettre un 2,49, histoire de dire.
Ouh, voilà. T'es vache. T'es vache, mais je pense que tu as raison. Alors, moi, le temps de catch, ça, c'est pas vraiment ça qui me dérange, moi, surtout dans un hebdo, dans un weekly. Le temps de catch, c'est vraiment pas la priorité pour moi. Je sais, désolé, hein, les gars, on parle de show de catch, mais dans un weekly, je trouve toujours que si tu racontes bien les histoires, bah, t'es pas obligé d'avoir beaucoup de in-ring. Tu peux le garder plus pour les pay-per-view où là par contre t'as intérêt quand même il faudra arrêter les packages vidéo hein, dans les pay-per-view mettre plus de catch là c'est totalement le sujet inverse et dans un weekly bah, tu peux avoir moins de catch mais par contre il faut que le temps de catch soit comment dire logique en fait et là tu vois quand tu mets 2 minutes 30 sur le match de Raquel bah, tu pourras terminer les 2 minutes sur un des autres matchs. Alors, je sais pas n'importe lequel hein, peut-être Naomi chez la Baszler pour rester dans les filles, ça aurait été bien plus logique en fait d'avoir un match un peu plus long
je pense.
Quand tu as des oppositions équilibrées que quand tu as un monster, une fille un peu monster versus une no-name quoi. Et ça c'est un petit peu le sujet que SmackDown je trouve qu'il y a toujours du mal à, en fait, à équilibrer ses temps de ring puisqu'il met souvent autant de temps pour un match avec des gens confirmés qu'avec des gens de la low-card quoi. C'est toujours un petit peu perturbant sur ce SmackDown. Pour venir au top, au flop, bah, c'est difficile de faire autre chose que ce que tu as dit, donc je ne vais pas le faire. Je ne vais pas me forcer à donner un flop autre chose qu'à Lacey Evans, qui est le fond du catch, puisque pour moi, c'est le degré zéro. Voilà, je disais qu'il n'y a pas besoin de catcher pour être intéressant dans un weekly. Par contre, il faut avoir de la... Je sais pas moi, raconter une histoire, mais autre chose que je suis malheureuse. Si t'es malheureuse, je sais pas moi, va bosser chez Kleenex et arrête de travailler à la WWE, quoi. On veut pas de gens malheureux. Nous, on est la société du bonheur. N'est-ce pas, Vince?
Entertainment, quand même, non?
T'as là, entertainment, t'as là le E. Il est pour entertainment, pas pour chialage. Ça serait WWC, sinon. Et donc du coup pour le top, bah, j'ai Sheamus, un de mes chouchous. Hein, moi je lui ai donné mon top de 2021. Et donc du coup bah, le voir catcher, ça me fait toujours chaud au cœur. Donc du coup je me vois pas lui retirer son top. Et donc du coup bah, je fais comme toi, je lui donne aussi le top pour la confrontation avec juste la confrontation in ring. Par contre le côté Butch dont on nous parle mais qui n'est pas là. Je trouve ça un peu moyen, quoi. Je pense qu'il faudrait plus travailler le sujet dans ces cas-là. Et la note, je sais pas si je vais donner la moyenne, je donne 2,5, mais c'est un 2,5 de politesse, on va dire que c'est parce que j'ai peur que le fait que ce soit enregistré ait un peu faussé mon jugement et que je sois plus dur, sinon. Mais dès le début, je l'ai pas senti et je me suis pas senti dedans. Et du coup, bah, je l'ai suivi, mais sans grands entrains, ce show. Donc voilà, bah, du coup, on est arrivé à la fin de ce SmackDown. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter d'autre? Donc, bien sûr, je pense qu'on vous reparlera de Percy, un de ces quatre, puisque il y a eu beaucoup de gens, notamment de l'équipe Catch-Up, mais aussi de la communauté Catch-Up, qui a priori est venu rejoindre nos collègues et donc qui ont passé un moment très sympa. Bah voilà, on vous envie un peu, les gars. Hein, vous avez dû passer une bonne soirée. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On peut vous dire aussi, donc je l'ai un peu parlé, évoqué tout à l'heure, mais il y a eu une première charrette là, de la WWE cette semaine. Et concernant beaucoup de personnes NXT, enfin, même intégralement des personnes NXT, on ne sait pas si Main Roster sera concerné dans le futur. Mais voilà, NXT, il en a perdu donc quelques noms comme Dexter Lumis, hein, l'espèce de stalker là, un peu tordu, et Dakota Kai, hein, dans les, on va dire, les grands noms d'NXT qui est parti. Donc à suivre s'il y aura d'autres trucs. Et sinon, bah, comme on vous l'a dit, vous pouvez retrouver aussi les comptoirs du catch, notamment un dernier qui parle des champions NXT, les champions masculins d'NXT et qui ont pris la ceinture suprême, notamment, bah voilà, quels étaient leurs statuts, où ils ont pris la ceinture, et puis qu'est-ce qu'ils sont, et comment ils ont fini derrière, ceci nous est raconté avec amour et passion par Raphaël et le Tonton. Voilà pour ça. Je vais vous faire comme la petite promo, hein, parce que vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, donc du PodCloud, du Apple Podcast, du Spotify, du Deezer, du Google Podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver avec une jolie vignette souvent sur YouTube. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, avec notamment un tonton de folie qui en envoie dans tous les sens, sur Facebook. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a là-dessus, mais bon, a priori, il y a des gens encore sur Facebook et sur Instagram où il y a des jolies images, je présume. Et vous pouvez aussi taper la discuter avec nous sur notre Discord où vous êtes le bienvenu. Vous retrouverez l'adresse dans la description de cette vidéo, podcast plutôt. Et donc, vous viendrez nous expliquer pourquoi c'est dramatique que Goulak ne soit pas main eventer de la WWE. Venez m'expliquer ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Gélia. J'ai oublié quelque chose ou on est bon là?
Qu'est-ce que non, on est bon, on est très bon. Juste pour dire que effectivement sur le Discord avec le show à Bercy a fait que ça, a priori c'était vraiment un moment très sympa. Il y a beaucoup de membres de la communauté Catch-Up ou peut-être même des nouveaux qui sont venus sur le Discord entre hier et aujourd'hui. Donc du coup c'est toujours très sympa. Donc n'hésitez pas à venir pour discuter. Effectivement, savoir si Gros Goulak mérite la ceinture tag team féminine ou pas à lui tout seul. On va en parler sur le Discord. C'est un sujet important. Peut-être en tag team avec Charlotte Flair que jamais.
Hey, ouais.
En tout cas, il y a des choses à faire, il y a des choses à voir sur Discord, sans oublier les partages de la communauté sur les dessins, les tweets, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà. Mais merci tonton. Oh, le lapsus. Merci Papy pour ce hosting, en tout cas.
Mais de rien.
Sur ce SmackDown.
Et oui, merci à toi, Gilles, de m'avoir accompagné. Merci à toi pour ce spoiler. Effectivement, le Charlotte Drew Gulak en équipe, vous l'aurez entendu pour la première fois ici à Catch Up. Moi, je remercie aussi du coup nos fidèles auditeurs. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je le sais que vous êtes encore en train de nous écouter. Je vous entends nous écouter. Et puis, je vous dis à très bientôt sur nos ondes pour d'autres podcasts. Salut Géliel et salut à tous.
Salut Papy et salut à tous. Dès que la transition de Drew Gulak est terminée, je suis sûr que c'est un spoiler.
Drouette, vivement qu'il soit là.